franceinter.fr.
Bonjour. Les skieurs professionnels sont des sportifs de haut niveau, mais en France, ils sont mal connus du grand public, même quand ils ont un beau palmarès. Nous sommes loin de l'engouement de pays comme l'Autriche, où le ski est le sport le plus populaire. Peut-être parce qu'en France, la pratique du ski reste réservée à une minorité, alors que nous possédons le domaine skiable aménagé le plus vaste du monde. Les skieurs professionnels forment donc une petite famille qui se retrouve de compétition en compétition. Et quand viennent les beaux jours, ils vont chercher la neige là où elle se trouve, à l'autre bout du monde. À quoi ressemble une vie de skieur professionnel entre l'adrénaline des pistes et la routine des chambres d'hôtel? En janvier, Franck Ballanger et Jérémy Thuil ont pu suivre les skieurs de l'équipe de France masculine lors de trois épreuves mythiques de la Coupe du Monde, Wengen en Suisse, Kitzbühel et Schladming en Autriche. Ils ont plus particulièrement suivi les traces du skieur David Poisson. Voici leur reportage, Touchous.
Interception, le magazine de la rédaction.
Traverse, axe, position.
Respect, Trevor, dans les deux pieds.
Ok. L'air est juste là, Florian. All is ok.
Marcus, ready for rock and roll.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Monsieur, bonjour.
Donc là, on est chez toi.
Là, on est chez moi pour les 5 prochains jours.
Et alors, ça donne quoi?
Bah, tu vois, on essaye de s'organiser comme on peut, de répartir la place, vu qu'on est deux à chaque fois dans les pioles. Bah là, on enchaîne après sur Kitzbühel, donc tu vois, on essaye de pas trop défaire les sacs. Il y a encore tout dedans.
Il y a beaucoup de matériel, des chaussures de ski, des casques, des gants. C'est un peu le bordel, quand même.
C'est un bordel organisé, hein, quand même.
Et comment ça se passe? Il y a des moments d'intimité? Vous avez vos petites habitudes? L'un respecte ceci, l'autre bah, cela?
Tu dois respecter de toute façon l'autre. Je pense que ça fait partie des lois de vie en communauté. Mais il faut aussi accepter que bah, t'es jamais vraiment tout seul. C'est hyper rare où, quand le mec il est chez le kiné, qu'il va sur la vidéo, on a quand même pas mal de choses à faire. Il y a la sieste, moi je sais que je fais pas la sieste, mais par exemple, là tu vois Yo, il l'a fait. Donc t'essayes de faire le moins de bruit possible, tu te cales devant la télé, devant l'ordi, sur internet, tu sais, t'essayes de faire des trucs. Maintenant on a quand même pas mal d'outils pour passer le temps, on va dire.
Mais là, je vois les lits, ils sont très proches. Ça veut dire que s'il y en a un qui ronfle,
tu réécartes dès que tu peux. Je sais que ça me dérange pas forcément le bruit. Après, tu sais jamais trop. Des fois, l'autre va s'endormir un petit peu, il va ronfler, et puis même si ça te dérange pas d'habitude, là, t'arriveras pas à dormir. Mais
et comment ça se passe quand il y en a un après une course qui fait un bon résultat et l'autre non?
Généralement, la plupart du temps, après la course. C'est un peu la course pour refaire les sacs et partir parce qu'on reste pas forcément sur place. Donc finalement, on a déjà eu le temps de se dire à peu près tout ce qu'on a à se dire dans l'air d'arrivée. Après, c'est vrai que c'est pas quand t'es dans la piole et que t'as fait une course de merde et que t'as le mec qui a fait la victoire ou le podium à côté et qui répond au téléphone ou machin, au truc. Tu prends sur toi, quoi.
Quand t'as débuté dans la carrière, c'était quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais monter sur un podium?
Non, ça n'a jamais vraiment été un objectif. C'est vrai que quand j'ai dit que je voulais faire du ski, je voulais pouvoir profiter, pouvoir aller faire les Coupes du Monde de descente, de pouvoir aller se frotter au meilleur, et puis surtout cette envie tu regardais Kitzbühel à la télé, t'avais envie d'y être, quoi. Mais t'avais envie de vivre la course plus que vraiment aller battre tout le monde, quoi.
C'est drôle, ça, parce que c'est pas habituel. Souvent, des gamins dans d'autres sports, ils disent bah, « moi, je veux être une star, je veux gagner plein d'argent ».
C'est vrai que le résultat, bah, c'est attractif. Être le meilleur de quelque chose, c'était... je peux comprendre que ça soit la première chose à laquelle on pense, mais moi j'ai jamais eu vraiment ce truc là quoi. Après j'ai l'esprit de compétition, ça je le renie pas. Faut quand même faire partie des meilleurs pour pouvoir passer les échelons quoi, ça paraît logique.
Mais dans ces conditions, quand on a toujours parlé et privilégié le plaisir, comme t'as l'air de l'avoir fait toute ta carrière, qu'est-ce qu'on sent quand on monte sur le podium des championnats du monde?
C'est difficile à expliquer maintenant. Quoi qu'il arrive, c'est une joie immense parce que à un moment tu te dis que t'as pas fait ça pour rien, parce que même si tu fais des bons résultats, que tu prends énormément de plaisir, c'est difficile de faire comprendre aux gens et puis même pour toi, même si tu sais exactement pourquoi tu le fais. Et c'est pour moi ça a toujours été le plaisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu prends le fait d'aller vite, le fait de maîtriser ce que tu fais. Le fait de pouvoir être devant fait aussi partie du plaisir. À la montagne, je pense que ça vient naturellement. J'ai un frère qui a un an de plus que moi, donc on a fait quand même pas mal de choses ensemble. Et c'est vrai que lui a intégré le ski club vers 8-9 ans. Moi, j'ai essayé de le suivre. Voilà, c'est ce plaisir de la neige, plaisir de la glisse, avant tout, je pense. Puis après, petit à petit, en fait, finalement, c'est monté de niveau. Mon premier titre de champion de France, c'était en cadet. Donc cadet, c'est quand même déjà, t'as 16-17 ans, c'est pas tout jeune. Il y a eu des bons résultats à chaque fois dans les catégories inférieures, mais juste de quoi te faire continuer avec les autres, quoi.
À quel moment tu t'es dit, je vais en faire mon métier, je vais devenir skieur professionnel, c'est ce que je veux faire?
Ça a été assez clair, assez rapidement. Ça correspondait en fait à la dernière année du collège. Je me suis porté là-dessus, essayé de rentrer en ski études d'abord à Moutier, au lycée, et puis après essayer d'aller essayer le lycée d'été, donc le Pôle France à Albertville. J'ai pas été accepté. Ça n'a jamais été vraiment facile, jamais été dans les clous. Même à la fin de junior, j'ai refait une année au comité où là tu commences déjà à être. C'est un petit peu moins bien parce que tu perds un petit peu le wagon. Il y a eu des gens qui ont, notamment des entraîneurs au comité, qui ont toujours cru en moi. Et derrière, il y a eu première année en Coupe d'Europe, premier top 10. On m'a donné l'occasion d'aller faire une Coupe du Monde et ça a claqué tout de suite. Et puis après c'était parti, quoi.
Alba Dumas !
Alexis Peintureau, j'ai 24 ans. Je viens du ski club de Courchevel et je vis notamment surtout à Annecy maintenant. Donc faut que je dise tout mon palmarès là.
Ouais, voilà. Quoi, t'as de victoire, quoi, t'as de podium.
Eh ben, j'ai actuellement 9 victoires en Coupe du Monde et 28 podiums pour aussi 2 médailles, une aux Championnats du Monde et une aux Jeux Olympiques et ces 2 médailles sont en bronze. Et tout ça pour préciser quand même que je fais du ski alpin.
Là, on a discuté longuement avec David Poisson. Il nous parlait de ses objectifs sur la carrière. Il lui disait que le premier truc, c'était prendre du plaisir, le ski, la montagne, la neige et tout. Toi, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose.
Je dirais que ça va ensemble. Mais ça peut être vicieux dans un sens où gagner, certes, ça me procure énormément de plaisir. Faire des très belles courses, ça me procure énormément de plaisir. Mais c'est pour ça que je dis que ça peut être vicieux. C'est qu'il ne faut pas oublier non plus que le ski, à la base, c'est quand même un plaisir et un loisir. Et que si, finalement, je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime ce sport. Et c'est ça qui peut être vicieux. C'est que de temps en temps, on tombe plus dans la performance que réellement dans le pourquoi on est là. Et ça peut être de temps en temps un peu mon péché, entre guillemets.
Dans ces conditions, quel rapport tu as avec les autres, skieurs des autres équipes ou avec ceux de l'équipe de France?
L'avantage de notre sport, c'est justement on combat finalement plus contre le chrono que contre notre adversaire. Et donc la relation que j'ai avec les autres athlètes, elle est vachement homogène, et c'est-à-dire qu'on s'entend tous quand même bien. Il y a peu d'athlètes qu'on pointe du doigt et qu'on aime pas trop, et encore plus au niveau français. Au niveau français, on est tous des copains finalement. Hein. Moi, je rigole tout le temps avec eux, et c'est ça aussi qui est plutôt chouette dans le sport.
Est-ce que c'est dû aussi au fait que le ski est un sport dangereux ?
Certainement, et c'est d'ailleurs pour ça que même dans certains sports, les top athlètes se parlent uniquement entre eux et peu avec les autres, alors que je pense que dans le ski, c'est peu le cas. On est tous logés à la même enseigne, notamment, je pense, parce qu'il y a énormément de blessures. Hein.
Allez, pour la France.
Bonjour, je m'appelle Adrien Théo, j'ai 31 ans, je viens de Val Thorens. J'ai 12 podiums en Coupe du Monde, dont 3 victoires et une médaille de bronze au championnat du monde en Super G à Beaver Creek en 2015.
C'est pour des moments comme ça que tu es devenu skieur de haut niveau? C'est pour des Wengen, des Kitzbühel?
Ouais, c'est pour ce qui est des pistes comme ça, parce que ça m'a toujours fait rêver. Je me souviens quand j'étais petit, chez un copain, il y avait une belle affiche de Kitzbühel qui était prise d'hélicoptère, je pense, où on voyait toute la foule dans l'air d'arrivée avec les montgolfières, parce qu'à l'époque il y avait encore les montgolfières, etc. Et puis on voyait tout le dévers d'arriver. Et mon rêve, c'était d'aller là-bas et de pouvoir juste être dans le public, en fait, d'aller voir la course une fois. Et puis voilà, j'ai eu la chance de la skier, donc ouais, c'est vraiment pour ça que je fais du ski. Pour les sensations que ça me procure, que ce soit la vitesse, l'adrénaline surtout, parce que je pense que c'est ce qui me fait vibrer, quel que soit le sport que je fais. C'est ce qui m'anime le plus. Et je pense que quand on arrive sur toutes les descentes qu'on a la chance de faire, on est servi, notamment à Kitzbühel. Ah,
le ski est un sport dans lequel le matériel joue un rôle important, très important même. Dans ces conditions, les techniciens qui bichonnent les skis ou les chaussures des champions sont des personnages centraux, mais qui œuvrent dans l'ombre. Personne ne les reconnaît dans la rue, ils travaillent dans des sous-sols, dans des parkings. À Wengen, le mois dernier, c'était juste à côté de la chaufferie, dans les entrailles de l'hôtel de l'équipe de France.
Bonsoir monsieur, bienvenue à l'hôtel Regina. Quelque chose pour vous ?
David Bouchardi est le technicien ski de David Poisson, alors que Gilles Lambollet prépare ses chaussures.
Bonjour messieurs.
On est où David là ?
Au local. Moi je vais te dire que j'y viens régulièrement, lui te dira que j'y viens jamais, mais bon.
Donc ça c'est ton technicien.
Ouais, David, technicien que j'ai depuis que je suis rentré dans le groupe Coupe du Monde. Et puis ça fait quoi, 12 ans maintenant qu'on se connaît ? Un petit bail.
Et le technicien, c'est celui qui prépare tes skis, qui essaye de les rendre meilleurs pour que tu sois meilleur. En gros, c'est ça.
En gros, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, j'y connais pas grand chose sur les skis. Si tu mets une paire de skis, j'arriverai à faire, mais les faire pour aller faire aller vraiment vite, ça, je sais pas faire. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est matériel. C'est l'ingénieur.
Qui est-ce qui commande dans la relation avec David ? Qui est-ce qui dit je veux, ce sera comme ça ou... C'est vous ou c'est lui ?
on en discute. Et puis après, le choix définitif, il m'appartient, quoi.
Les skis qui vont vite, c'est lui qui sait. Derrière, on a Gilles, là-bas, qui s'occupe des chaussures.
C'est pareil que pour une ski, c'est aussi pointu, aussi précis.
Bah, j'aimerais bien, après je j'ai pas un gros feeling avec mes pieds, donc du coup c'est vrai qu'on a un peu moins l'occasion de partager avec Gilles, même si on le voit régulièrement. Autant David nous suit sur toutes les courses, autant j'ai avec Gilles, il faut prendre rendez-vous parce qu'il est régulièrement là pendant l'hiver, mais l'été, l'automne, il nous suit pas forcément sur les stages, donc on essaye de dès qu'on peut d'échanger sur les pompes, d'essayer de les faire évoluer. Et puis après, je pense que le plus important, c'est les petits réglages de confort. C'est vrai que ça paraît peut-être dérisoire, mais c'est des pompes qui sont très très fines. Dedans, on a un chausson qui est très fin, il n'y a quasiment aucun confort, et le peu qu'on peut garder, ça peut faire une grosse différence. C'est vrai que si tu as des petites douleurs au niveau des pieds, mentalement, ça te grille pas mal d'énergie.
Mais très clairement, ce ne sont pas les chaussures ni les chaussons que le commun des mortels porte. C'est très serré, c'est...
Ça a l'aspect de la chaussure qu'on retrouve dans le commerce.
Mais non.
Ensuite, c'est vrai qu'avec les athlètes en Coupe du Monde, il y a vraiment un gros travail, comme l'a dit David. Parce que la moindre petite douleur, voilà, au niveau du petit orteil, peut tout doucement remonter le long du pied, au niveau de la cheville, remonter jusqu'au genou, et voir tétaniser plus ou moins la jambe. Et vu les efforts qu'ils ont à fournir pendant les 2 minutes, 2 minutes 30 de descente, cette petite douleur peut vraiment être un gros handicap. Donc on fait le maximum pour que l'athlète se sente vraiment bien dans les chaussures.
J'ai vu quelques pieds de skieurs et de skieuses, c'est pas très joli.
Les miens, a priori, sont parfaits.
Voilà.
Merci beaucoup. Victor Muffat-Jandet a 26 ans, un garçon posé, réfléchi. Sur les skis, il devient super totor. Il est monté sur 5 podiums de Coupe du Monde.
Quand t'es skieur de haut niveau, de toute façon, normalement, c'est que t'adores ça et que t'aimes ce que tu fais. Donc j'espère que ce sera jamais de la monotonie et de la lassitude, parce que moi, c'est vraiment la chose qui me plaît le plus au monde, de skier, de faire des voyages, de me balader avec mon gros sac et mes affaires et... On fait un sport qui apporte énormément de nouveautés et de différences à chaque fois, parce que on change de tracé, on change de piste, on change de neige. Donc c'est pas la natation, quoi. Voilà, des fois on se dit, putain, les nageurs, les pauvres, la piscine, les carreaux, ils changent pas beaucoup au fond. Donc on a la chance de faire le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui peut être monotone et quand même vraiment contraignant. Et nous, on a la chance d'être un des sports les plus diversifiés et variés du monde, je crois. Et on n'a pas finalement, à part le ski, on est quand même tellement dans ce but de performance et omnibulé par notre ski qu'on n'a pas énormément de vie à côté. Je pense que un de mes petits défauts que j'aimerais m'améliorer, c'est que ma vie sociale et administrative, elle avance pas beaucoup l'hiver. Ouais.
Et la vie de famille, la vie sentimentale, la vie amicale, comment tu gères ? En étant absent de chez toi 200 ou même plus jours par an?
C'est vrai que les amis un peu hors ski, on en a quand même très très peu. Finalement, ça fait 20 ans qu'on vit dans ce milieu, donc nos connaissances et nos collègues, maintenant, ils sont là. Et puis les autres un peu ailleurs, on en a quelques-uns, mais chacun après a pris des chemins différents dans sa vie. Et voilà, la vie sentimentale, si on a la chance, moi je l'ai... d'avoir une compagne qui comprend vraiment. C'est vraiment difficile de trouver des gens qui comprennent notre mode de vie, en fait.
Tu n'as jamais regretté d'avoir fait le choix du ski de haut niveau, d'avoir embrassé cette carrière?
Ouais, ça, c'est toujours le grand questionnement. Je pense que la question, elle est plus facile à poser maintenant que, mine de rien, j'ai vu que tous les sacrifices et investissements commencent à payer. J'espère que ça va aller plus loin. Voilà, faut pas du tout s'arrêter là, mais le fait d'avoir fait des podiums, d'être en Coupe du Monde, de vivre ça, la question est déjà un peu plus facile. Mais c'est sûr que quand t'es vers tes 18-20 ans, que tu vois la plupart des jeunes de ton âge aller à l'université, faire telle ou telle chose, et que toi, t'es un peu dans les contraintes, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se la posent. On en parle souvent, hein, même avec les plus anciens, avec Julien Liseroux dans le groupe, on se dit ça, parce que souvent, tu te dis, là, il a neigé, par exemple. J'aurais bien aimé faire de la poudreuse, mais chaque année, je peux pas faire de poudreuse parce que je fais du ski de compétition bientôt tous les jours. Donc toujours, tu te dis un peu ça, voilà, il y a des peut-être deux, trois fois des soirées avec des copains que t'aimerais bien faire et tout, mais mine de rien, les émotions que te procure le ski de haut niveau, c'est des choses que je pense que tu retrouves dans très peu d'autres domaines. Enfin, c'est des émotions qui sont incroyables et énormes. Et puis, bah, j'essaierai de me rattraper dans 10 ans, 10-15 ans, quand j'aurai fini le ski alpin.
Comme des couloirs. Ce qui compte, c'est que tu es avancé là, lâché. Et pas jeté là. Tu lâches et tu prends la pente. Ça fait pareil que dans le chemin, ça fait l'impression d'un peu direct, ouais. Sauf que ton ski cintre. Et après, t'as de la place pour sortir. Hier, tu regarderas Krischmayr après. Il fait ça, son ski cintre, t'as l'impression qu'il va sortir hyper large, mais non, il est là, mais il est un peu à poil plus large, mais il a encore de la marge.
Bonjour, je m'appelle Julien Liseroux, j'ai 36 ans, je suis originaire du club des sports de la Plagne, et puis je suis aussi douanier. C'est ma 17e saison en équipe de France, et si je dis pas de bêtises, j'ai gagné 3 slaloms en Coupe du Monde, j'ai 2 médailles d'argent au championnat du monde en 2009 à Val d'Isère, et je dois avoir 10 podiums, parce que on me dit toujours 9, mais moi j'ai inclus le 10e qui était un team event en 2007 à Lenzaride. Ce que je préfère dans le ski, c'est courir en fait. C'est les compétitions, parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne. Et puis, c'est des tout petites choses. C'est infime. Il y a des jours où je vais avoir l'impression de faire une super manche. Je vous prends l'exemple de Madonna. J'arrive en bas de ma première manche, je me dis « Ah bah là, ça fait un moment que j'ai pas fait une manche aboutie comme ça. Je suis dernier à deux perles. » Et j'arrive en bas de ma manche à Val d'Isère, je me dis « Ouh bah là, j'en ai pris 3 quoi. » Et en fait, non, je suis quatrième. Donc, le ski, c'est pas des sensations. Le ski, c'est le chrono en fait. Et nous, on s'entraîne pour que le chrono il soit de notre côté, tout simplement. L'idée, c'est pas de skier bien, parce que j'entends même des jeunes souvent dire « Ah, mais je comprends pas, j'ai bien skié. » Mais non, t'as pas bien skié. Si t'avais bien skié, t'aurais skié vite. Moi, ça m'intéresse pas de bien skier, d'être posé techniquement, de faire ce qu'on me dit. Non, moi, ce que je veux, c'est skier vite. Si je skie n'importe comment et que je skie vite, ça me va. Ce qui s'est passé avant, c'est pas marqué sur le papier, que c'est qui a mal au genou, que c'est qui a mal au dos, que c'est qui est vieux, que c'est qui est jeune, on s'en fout. L'idée, c'est qu'après, je suis un compétiteur, donc j'ai envie de tous les bouffer, mais je me bats uniquement contre le chrono, donc voilà, mais c'est ça qui me plaît, c'est ça qui fait que je vais m'entraîner tous les jours. Et ouais, je suis un vrai compétiteur, et puis surtout, je suis un amoureux du ski, quoi. Donc j'ai trouvé un compromis qui va bien, c'est le ski alpin, la compétition de ski alpin. C'est pour ça que je continue.
Champion du monde en Réunion. Jean-Baptiste Grange, 19e. Après la première manche, non, il s'est installé.
Le ski alpin est un sport individuel où le seul adversaire est un chronomètre. Un sport ingrat donc, où l'on peut se retrouver sous la lumière des projecteurs pour un centième de seconde, ou bien au pied du podium pour un autre centième. Ce rapport au temps force à l'humilité et à l'introspection. Souvent, dans une carrière, c'est la tête, plus que les jambes, qui commande. L'intelligence qui fait la différence, l'expérience qui permet d'exister au plus haut niveau. Jean-Baptiste Grange a 31 ans, vainqueur de la Coupe du Monde de slalom en 2009, double champion du monde en 2011 et 2015. Il est l'un des skieurs les plus doués de l'équipe de France, mais plus que son aisance entre les piquets, c'est sans doute son cerveau qui lui a permis de durer.
À l'arrivée, Jean-Baptiste Grange en finale, inside. Il s'est passé 5e, putain.
Il suffit d'une course pour que ça reparte dans le bon sens. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est mettre tout bien en place et puis essayer d'avancer, de laisser passer un peu ces moments plus délicats, hein, forcément. Tu restes pas insensible au fait de soit d'enfourcher ou de ne pas avoir les résultats que tu voudrais avoir. Hein. Ouais, je pense qu'avec l'expérience, tu t'en sers pour prendre ça plus calmement et tirer les conclusions pour corriger le tir sur les courses d'après. Quoi. On a déjà eu des tracés en fait qui sont tellement pourris que t'as des sensations qui sont pas bonnes. Et c'est vrai que t'es là, tu galères, tu te forces à rester calme, tu te forces parce que voilà, quand t'as pas des bonnes sensations, t'as qu'une seule envie, c'est de couper une ligne et de rentrer un peu direct, quoi. Et généralement, c'est pas ce qui marche. Donc voilà, c'est sûr que les sensations, c'est pas toujours ce à quoi il faut se fier. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu fais une bonne manche quand t'es dedans et que voilà, que comment dire. Que tu devances les choses et que t'es focus à fond sur ce que tu fais, quoi. C'est sûr que quand t'es en train de penser à la faute que t'as fait ou à comment t'es en train de skier, ou... c'est... généralement c'est pas ce qui va le plus vite. Quoi.
Ok, David à l'arrivée. C'est super bon à skier les gars. Toute la première partie, c'est bien glace, mais ça répond bien. Il faut quand même réagir assez vite après la winch count parce que ça a tendance à nous descendre. Après, tout le reste, c'est vraiment super bon. La neige accroche bien, c'est assez facile. Même chez David, c'est plus facile que d'habitude parce que je pense que ça va un petit peu plus droit. L'entrée du shoot des Autrichiens, il n'y a pas vraiment de souci si vous travaillez les mouvements de terrain, il décolle quasiment pas. Le saut chez Tato, il va au plat, ça faudra vous attendre à vous faire secouer un peu les chaussettes. Et tout le bas, ce ski pour l'instant très très bien. Donc allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a aucun souci.
C'est un sport dur quand même le ski. Tout est dur en ski.
C'est vrai que, surtout avec l'âge maintenant, tu te rends compte que la chute en ski, elle n'est pas anodine, surtout en vitesse, que ça fait mal. Même la plus petite des chutes, à 33 ans, elle ne fait pas plaisir. Mais par contre, tu as tellement de sensations, tu prends tellement de plaisir à côté, quand ça ne va pas forcément très très bien, mais quand tout se passe bien et que tu peux enchaîner les manches, que tu peux finalement te concentrer que sur le ski, que ça efface tout, quoi, ça efface tout le reste.
Qu'est-ce qui est le plus dur quand on vieillit, quand on devient un vieux skieur?
Après, ça dépend un petit peu de tout le monde. Moi, je sais que depuis tout le temps, mes qualités, ça se joue sur l'engagement. Je suis quelqu'un qui est dur au mal, je pense, et du coup, qui accepte de prendre les coups. Et ces dernières années, les coups, même si tu les acceptes, ils font de plus en plus mal. Et l'engagement, tu oublies moins facilement les séquelles d'une chute, quoi. C'est ça le truc.
Tu te souviens de tête de podium, que ce soit au championnat du monde ou en coupe du monde, tu te souviens aussi de toutes les chutes?
Ouais. La plus grosse, la plus impressionnante, je pense que c'est Valgardena en 2010, parce que moi je me souviens quand j'ai senti le ski partir, faire la faute de quart, me dire non, pas là, pas maintenant, parce que même si c'est pas la plus grosse vitesse, t'es quand même à 110 km/h et que t'arrives sur le plus gros saut de la saison. Donc t'as envie de l'aborder quand même en étant assez posé, assez serein. Après, celle qui a fait le plus mal, et malheureusement c'est ça aussi qui te fait évoluer, c'est souvent la dernière.
En France, lorsque l'on parle de ski, on parle de Jean-Claude Killy, la référence ultime avec ses 3 titres olympiques à Grenoble en 1968. Ou bien de Luc Alphand, Lucho pour les amis. Le seul Français, avec Killy justement, à avoir remporté le classement général de la Coupe du Monde de ski alpin, le fameux gros globe de cristal. C'était en 1997 pour Luc Alphand, il n'y a même pas 20 ans, mais on peut pourtant déjà parler d'une autre époque. Un temps où la sécurité des skieurs n'était pas encore au centre des préoccupations.
D'abord, on parle de comment c'était avant. Quels sont, à ton avis, puisque tu suis toujours le ski, donc tu dois le savoir, quelles sont les grandes différences entre ton époque à toi et ce qui se passe maintenant, notamment en descente et en termes de sécurité? Est-ce que ça a vraiment beaucoup changé ou alors est-ce que ce sont sensiblement les mêmes conditions?
Ah non, ça a beaucoup changé, hein, parce que moi j'ai connu, je suis arrivé ici à Barrière en Châtaignier, bottes de paille. Bottes de paille au mois de janvier, forcément bien gelées. Donc il y avait des filets, le damage, parce que nous c'était damé au pied, arrosé à la lance à incendie. Je pense que maintenant les machines, donc le damage a beaucoup progressé. Les filets, les bâches sur les filets, Parce que ça, on n'avait pas aussi. On avait des filets qui étaient quasiment à ras. Et dès qu'on a eu des gros accidents, donc Reinschadler à Wengen qui malheureusement est décédé. Il y a eu ici Brian Stemmel, le Canadien, qui est resté longtemps à l'hôpital, ici hospitalisé. Donc c'était dangereux. En fait, avant, on enfourchait dans les filets. Et c'était, non, on a connu, c'était plus chaud. Hein. Faut pas dire que c'était mieux avant. C'était simplement au niveau sécurité, ils ont bien travaillé. La souricière... Elle a été élargie. Maintenant, il y a des fils à l'extérieur. Avant, moi, j'ai déjà vu un Américain qui a sauté à côté des barrières en châtaignier. Il y avait des petits sapins encore. Donc, c'était un peu plus chaud, quoi.
Avant, la dimension danger, elle était évidente. Fallait la prendre en compte.
Elle était évidente. Oui, sur toutes les descentes, il y avait une constante qui était la prise de risque. Et le résultat dépendait de cette prise de risque. Souvent, moi, ça me plaisait. Hein. Mais bon, il y a des jours où j'ai eu peur aussi. Mais bon, c'était assez important.
Toi, t'étais vraiment un dingue ou c'est une légende ?
Alors moi, j'ai été chien fou ou dingue, je sais pas. Mais j'ai été chien fou toute ma jeunesse parce que j'avais envie de prouver que je pouvais aller vite. Mais je crois que les deux ou trois premières fois ici, j'ai pas vu l'arrivée. La première fois, je suis tombé à l'entraînement, j'ai pas pu courir, je crois. Et puis après, je suis tombé à la souricière, je crois que les trois ou quatre premières qui se bulle, je les ai pas finies. Parce que je voulais toujours prouver, et pas qu'ici, hein, parce que je suis tombé à plein d'autres endroits, et parce que j'aimais ça, quoi. J'aimais aller vite, j'aimais prendre des risques. Oui, j'étais un peu frappadingue, j'aime toujours ça, d'ailleurs. Et quand je suis parti en automobile, ça m'a pas gêné, du coup, accélérer. Petit, il fallait qu'on saute les cailloux, il fallait qu'on aille faire de la poudreuse, il fallait qu'on aille, faire des trucs qui étaient différents. Moi, j'étais moins tourné vers la compétition, tout petit. Puis quand la compétition est arrivée, qu'il y avait des rouges, des bleus, qu'il fallait tourner, ça a été presque une contrainte, quoi. Et parce que moi, ce que j'aimais, c'était encore aller vite et me faire plaisir, comme beaucoup de skieurs. Et c'est pour ça que dans la descente, je trouvais cette dimension mentale de dealer avec la peur, qui était, que je trouvais ça super intéressant pour moi. Alors, elle est pas facile tous les jours. Hein. Et en fait, comme ici à Kitzbühel, c'est genre, plus tu t'étais fait peur, plus t'étais heureux en bas. Et d'avoir survécu, quoi, tu vois. Et c'était génial. Quand t'arrives en bas, tu dis « Ouais, je l'ai fait. » Entier. Fait ou pas bien fait, c'était pas grave. Si tu l'avais fait.
Aujourd'hui, t'as des enfants. Notamment une fille qui court en Coupe du Monde. Est-ce que parfois, t'as peur pour elle ? Est-ce que t'es inquiet pour sa santé, pour son intégrité physique ? Est-ce que ça fait partie des trucs que tu redoutes maintenant ?
Non, inquiet. Oui, c'est pas agréable quand tu prends un coup de téléphone, qu'il y a une blessure, qu'il faut aller à l'hosto, se faire opérer, etc. Par contre, l'armoire médicale chez les alphans, elle est, je dirais alphans deuxième génération, elle est bien remplie déjà. Hein. Donc ils se blessent parce que la blessure fait partie du ski alpin. C'est malheureux, mais tu peux pas dire à un gamin ou une gamine qui doit essayer de gagner des courses, vas-y tranquille, reviens entier. Enfin, tu vois, c'est pas le genre de discours que tu peux tenir. Non, faut que tu leur dises, vas-y, attaque, prends des risques, parce que s'il y a que comme ça que tu arriveras à aller devant et gagner. Donc forcément, moi je suis pas inquiet, ma femme est très inquiète par rapport à tout ça, mais moi je l'ai vécu et c'est pas quand même tous les jours que tu te blesses, quoi. Il faut faire attention, faut éviter les conneries. Et puis inquiet, non, mais je redoute le coup de téléphone, quoi.
Les skieurs prennent des risques parfois incroyables pour gagner quelques centièmes de seconde sur une descente. On peut imaginer une part d'inconscience chez les plus jeunes, mais chez les autres, chez les pères de famille par exemple. Comme Thomas Mermillot-Blondin, qui a dû apprendre à devenir un papa skieur avec la naissance de son petit Jacques il y a 2 ans et demi.
Et comment tu gères avec ta vie de skieur de haut niveau qui fait que tu es absent 150 jours par an, à peu près ?
Ouais, si, c'est ça. Bah, on a la chance maintenant d'avoir des outils qui marchent bien avec Internet. Donc j'arrive à le voir assez souvent, pour lui aussi, maintenant il comprend un peu mieux, il a 2 ans et demi, donc jusque-là, on va dire la première année, il captait pas grand-chose, mais là il commence à se rendre un peu compte, il est venu à Wengen voir un peu la course, maintenant il suit un peu à la télé quand je suis en course, donc il se rend compte, et puis après j'arrive assez bien à l'avoir, je l'ai même encore eu ce matin avant la course, donc c'est vrai que... Il y a de la distance, mais en même temps, on arrive à communiquer. Et pour lui, j'ai l'impression que c'est dans le fonctionnement un peu normal. Donc là, par contre, je suis très content de rentrer ce soir à la maison. Comme ça, je le verrai demain et après-demain avant de repartir. Et voilà, on va passer du bon temps ensemble. Après, c'est sûr que ça passe très, très vite. On se rend compte que ça passe très, très vite parce qu'on fête l'anniversaire. Et puis... bah on c'est sûr qu'on loupe pas mal d'étapes. Ça, c'est un peu le côté ennuyant, mais bon, si, ça fait partie aussi moi, de mon job. Pour lui, moi, je pars au ski comme si c'était voilà, mon travail. Et lui, il fait sa vie, il joue, il est content. Donc non, ça se passe très bien.
Maurice Adrée est une légende du ski français. Alors, il n'a jamais remporté de Coupe du Monde, même pas de Coupe d'Europe. Mais tout le monde le connaît, que ce soit en France, dans les vallées françaises, ou bien à l'étranger, à Kitzbühel, à Schladming, à Wengen. Tout le monde connaît Maurice Adrée, ancien entraîneur, notamment de Carole Merle. Et désormais, il s'occupe des relations presse de l'équipe de France.
J'ai commencé à entraîner, j'avais 20 ans. C'était ma passion. Ma passion est devenue mon boulot permanent. Ma foi, ma vie s'est remplie ainsi. Mais en tout cas, je suis vraiment très content.
Et est-ce que tu vas arrêter un jour? Est-ce que tu te vois arrêter?
Il le faut. Je suis arrivé dans un premier temps maintenant à couper déjà la moitié de l'année. Ou la moitié de l'année, je reste chez moi, je mène une vie normale. Maintenant, j'ai trouvé la capacité de me stabiliser et d'apprendre à ce que c'est qu'une vie normale, accepter les relations qu'on doit avoir normales dans un couple.
Tu dis j'ai accepté l'idée de rester à la maison.
Oui, parce que à un moment donné, c'est un peu ça, à un moment donné, quand tu as vécu ça tout le temps, tu te dis, allez, pourquoi pas, l'été, on refait l'hémisphère sud, tout ça, tu sais, c'est joli quand même, hein. Bon, même si tu n'as pas non plus du temps pour aller faire du tourisme, tout ça, autour de tout ça, mais que tu mènes une vie sympa. Tu travailles toujours avec des jeunes. Au début, j'avais des mecs qui avaient le même âge que moi, et après, ils avaient 10 ans de moins, 20 ans de moins, 30 ans de moins, et maintenant, 40 ans de moins, quoi, voilà.
Qu'est-ce que tu vas faire une fois que ce sera terminé?
Écoute, je vais aller voir des matchs de football, je vais jouer à la pétanque. Non, c'est les premières années qui vont manquer un petit peu, tu sais, cette... Le téléphone, il t'embête pendant que tu es vraiment dedans, parce que tu te dis, bon, maintenant, il y en a râle. Puis après, quand on ne te téléphone plus, tu sais, parce qu'à un moment donné, quand tu as des coups de téléphone normaux, quand une vie normale, et ça fait à un moment donné, tu te dis, merde, alors là, je suis pas très bien, là.
Donc, tu n'as pas eu une vie normale, en fait?
Non. Non, j'ai pas eu une vie normale, parce que je suis allé aux quatre coins du monde, j'ai skié à peu près partout où il y avait de la neige, quoi. C'est vrai. De la Russie aux États-Unis, en hémisphère sud, au Japon, en Corée. Donc, qu'est-ce que tu veux? Avec en plus, le côté le plus piquant et ce dont j'ai besoin, c'est de l'adrénaline de la course. Moi, le jour de course, même encore maintenant, ça monte. Hein. Tu vois, là, on est à quelques heures du départ. Ça y est, c'est parti, quoi. Tu vois, il y a les 30 premières minutes, ça va être quelque chose de plein. Après, on s'est plus absorbé. Aussi les victoires, mais aussi les échecs, on sait les absorber un peu mieux que peut-être il y a quelques temps en arrière.
On n'a pas encore parlé d'argent, on n'a parlé que de plaisir, de ski et tout. Un skieur de haut niveau, ça vit bien?
Ça vit. Déjà, ça fait quoi? Ça fait 12 ans maintenant que je suis là. Je vis de ça. Je peux me concentrer pleinement à ça. Les meilleurs vivent bien. C'est un sport. Je pense qu'on n'a pas de soucis d'argent là-dessus. Après, moi, je me suis toujours fait la réflexion en faisant des bonnes saisons où tu peux mettre un petit peu de côté. Tu te dis que même si tu vivras pas toute ta vie avec ce que tu as mis de côté, au moins ça te permettra de redémarrer sur quelque chose. Si tu dois t'installer sur une entreprise, des trucs comme ça, c'est ça déjà ce petit matelas qui permet de le faire.
Donc tu vas devoir travailler après ta carrière.
Je vais devoir travailler, à part si vraiment les quelques années qui me restent se passent très très bien. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y a pas énormément de skieurs qui se la coulent douce après et qui peuvent vivre de leur rente sur leur carrière sportive, quoi. Après, ce qui est plus dur à envisager, finalement, c'est quoi faire après. Parce que c'est vrai que si t'as vraiment beaucoup d'argent de côté et que tu peux te permettre de voir venir, ça te laisse le temps de te dire, ça y est, c'est bon, j'ai arrêté,
je vais pouvoir vivre sur les bénéfices que j'ai faits et puis voir ce que j'ai envie de faire après. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne penses pas trop soit à ça et c'est plus quoi faire après qui est effrayant plus que se dire que d'envier les mecs. C'est juste une question de temps finalement.
Est-ce que ça parasite pendant la carrière ça ? Est-ce qu'on pense dès le départ à l'avenir, à ce qu'il faudra faire, à mettre de l'argent de côté, à penser à la suite, ça parasite ou alors on arrive à faire abstraction non. Et à se balancer ?
Non. Après, moi, j'ai jamais été vraiment porté sur ce que je faisais après. Je suis pas quelqu'un qui me voit dans 5 ou 6 ans. Généralement, mes objectifs, ils sont assez courts, mais mon plan de vie va pas très très loin. Ce qui reste de changer d'ailleurs, parce que si avec un petit, maintenant, va peut-être falloir penser autrement. Mais quoi qu'il arrive, ça nous permet de bien vivre, de se faire plaisir. Après, tout le monde n'a pas le même train de vie. Quand je regarde un peu mes collègues, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont décidé d'avoir des appartements, des trucs comme ça. Moi, pendant un long moment, j'étais très bien chez papa-maman. Je me faisais plaisir sur les voitures, les trucs comme ça. C'est vrai qu'à un moment, tu réalises que même si je suis pas un grand dépensier, va peut-être falloir changer de train de vie, mais voilà, c'est autant en profiter. On n'est pas là à gagner des sommes astronomiques et se dire ça sera placé, machin, truc. Je suis pas quelqu'un qui voit dans l'avenir et qui va aussi placer le peu qu'il a pour l'après. Honnêtement, je me vois pas rien faire après. Je pense que si un jour j'en arrive là, c'est que ça sera un échec aussi. Aujourd'hui, faut prendre ce qu'il y a à prendre, profiter de cette carrière qu'on a. Mais après, il faudra penser à autre chose et il faudra faire autre chose. La vie s'arrêtera pas à 35 ou même 40 ans quand j'aurai décidé d'arrêter le sport, quoi. In second place, on passe par les Alcoriens, not first, but 22-2, as we stand by. What a big step from 22-2, representing Austria, Marcel.
Touchous, c'était un reportage de Franck Ballanger, prise de son Jérémy Tuile, mixage Claude Niort. Pour commenter ce reportage, nous avons fait appel à quelqu'un qui connaît bien les sportifs de haut niveau, Claude Fauquet, ancien responsable de la préparation olympique et paralympique des sportifs français. Bonjour.
Bonjour.
On entend dans ce reportage sur les skieurs que c'est beaucoup de sacrifices finalement le sport de haut niveau, au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie tout court. Quand on est jeune, on aime bien sortir, on aime bien tout ce genre de choses. C'est vraiment une vie de sacrifice, la vie de sportif de haut niveau ?
Eh bien, si c'est le cas, je suis inquiet. J'ai jamais considéré que c'était des sacrifices. Alors peut-être il l'exprime comme ça, mais je crois que c'est plus profond que ça. C'est l'engagement que ça réclame. C'est-à-dire, il peut pas y avoir de demi-mesure. Donc en ça, ça peut être sacrificiel, on va le dire comme ça. Mais je pense que leur désir de réussite est tellement profond que tout y passe. C'est-à-dire que le prix à payer est fort, mais ce prix, ils sont prêts à le payer. Je crois que c'est important. Et j'aime pas parler de sacrifice, parce que finalement, quand on les retrouve après, ces moments-là vont marquer une vie. Ils vont les engager complètement dans un regard sur leur vie qui sera fantastique.
On entend aussi la peur de la chute. C'est un sport où il y a beaucoup de risques. Le ski, alors c'est pas le cas dans tous les sports. Pour les autres sportifs, c'est quoi ? Il y a la peur de la blessure peut-être qui est très présente et qui peut ruiner une carrière.
Oui, bien sûr. C'est vrai que sur des sports comme ceux-là, je pense à Jean-Baptiste Grange par exemple, qui revient après les blessures, qui revient champion du monde. C'est un phénomène très particulier. Et quand j'en discutais avec eux, c'était un élément pratiquement constitutif de leur pratique d'athlète. C'est-à-dire, la blessure, oui, elle est là. C'est pas quelque chose auquel on va échapper. On sait que de toute façon, un jour ou l'autre, on va être blessé. Alors, pour les autres, je sais pas si finalement, Au-delà de tout ça, il n'y a pas la peur de mal faire. C'est-à-dire de ne pas être en adéquation avec sa volonté de réussir le mieux possible ce qu'on a à faire. Cette peur-là, elle est présente partout. Et peut-être que ça génère de la blessure. C'est-à-dire ne pas être prêt, avoir un sentiment de crainte, de ne pas avoir assez travaillé. Enfin, des tas de choses qui font que finalement on va se blesser parce qu'on n'a pas abordé les choses comme il fallait. Et ce reproche un petit peu inconscient que les athlètes peuvent se faire, je crois qu'il est commun à tous.
Alors David Poisson le dit à la fin du reportage, les skieurs professionnels ne sont pas très nombreux, mais ils sont un petit nombre à arriver à vivre de leur sport. Et puis après, il y a la reconversion. C'est un vrai souci, ça, quand arrive la fin de la carrière, la reconversion. Ou bien au contraire, est-ce que les sportifs de haut niveau, finalement, ont des qualités qui font qu'ils sont assez faciles à reconvertir dans le monde du travail par ailleurs ?
On sait que... puisque je travaillais à l'INSEP à cette époque de la préparation olympique, on sait que dans les dernières années de la carrière, cet aspect-là va être présent. Et encore une fois, la capacité à être en même temps acteur, dans le moment présent de la compétition, et se projeter dans l'avenir de ce qu'on va devenir, il y a là presque une injonction paradoxale, quelquefois, qui crée des difficultés pour les athlètes. Mais... C'est pas des choses qui se font facilement, c'est-à-dire utiliser tout ce qu'on a acquis comme personne pour en faire quelque chose d'utile dans sa vie future, c'est quelque chose qui s'apprend et il faut être accompagné pour le faire. Et je crois que les mesures qui ont été prises par le gouvernement sur le statut des athlètes de haut niveau, sur les parrainages par les entreprises, enfin, il y a beaucoup de choses en ce moment qui ont énormément évolué et qui permettent ce chemin. Quand on est libéré de la crainte de son avenir, on est un petit peu libéré de beaucoup de choses dans les dernières années de sa pratique de sportif.
Pour terminer sur une note peut-être plus positive, qu'est-ce qu'on dit à un jeune aujourd'hui qui est attiré par le sport de haut niveau ?
Fonce. Jamais tu ne vivras des choses aussi intenses dans ta vie que cette volonté permanente d'aller au bout de ce que tu es. Deviens ce que tu es, pour citer Nietzsche.
Merci Claude Fauquet.
Merci à vous.
Interception est réalisée par Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe. Zora Bensmaili s'occupe de notre page internet sur laquelle vous pouvez réécouter les reportages. Dans quelques instants, le journal de 10h. À la semaine prochaine.